BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club ce soir, ils nous rejoignent, c'est sa première dans l'émission, on est ravis de l'accueillir, Laurent Martin pour CIBTP France. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Guillaume.
Content de vous retrouver avec Régis Béguet, un habitué depuis
2010 je crois.
Bienvenue Régis.
Voilà. Et la couleur des cheveux a changé
pendant cette période. Non, pas du tout. Regardez justement, non. Et ils sont toujours aussi nombreux, les cheveux. Zaldig Asset Management, bienvenue également. On est pas mal là sur les marchés européens, des marchés, des indices bien orientés. L'Eurostock 50 gagne 0,5%. Le CAC fait mieux que tout le monde, alors ça ici, c'est Paris, hein. Ici, c'est Paris. Plus 0,8. C'est à Paris qu'on trouve la plus forte hausse en Europe aujourd'hui. Ça change, c'est rarement le cas. Et à Wall Street, on est en hausse aussi. On avait ouvert dans le rouge et finalement, c'est une hausse du S&P de 0,1%. Qui va arrêter les marchés? Enfin, on avait ouvert sur une petite correction à Wall Street tout à l'heure et finalement, on est déjà en train de se retourner à la hausse. Malgré Broadcom qui perd 15%. Qui arrêtera les marchés?
Oui, c'est impressionnant la capacité des marchés à toujours en hausse, quelle que soit la thématique. C'est vrai que il y a eu la première partie de l'année, janvier en particulier, qui était plutôt portée par les business domestiques, la défense, etc. Depuis, la défense a énormément baissé. Ensuite, il y a eu effectivement toute la dynamique autour de l'IA, donc en commençant par les semi-conducteurs, mais pas seulement, puisque ça s'est étendu aux valeurs liées à l'électricité, donc les utilities, aux valeurs liées aux matières premières dont on a besoin pour faire de l'électricité, donc les miniers, etc. Et on est toujours sur cette tendance-là depuis le début de l'année. Mais dès que cette tendance s'interrompt pour X raisons, aujourd'hui c'est Broadcom, peut-être c'est l'IPO de SpaceX, le marché a une capacité à continuer à monter sur d'autres valeurs qui étaient délaissées jusqu'ici. Et je dois dire que c'est assez impressionnant, même si c'est tout à fait justifié sur le fond. C'est-à-dire que l'attractivité de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'il y a eu autour a provoqué des baisses de valorisation qui sont très souvent excessives dans les business défensifs, dans la pharma, dans les logiciels, vous l'avez cité, qui sont considérés à tort ou à raison comme des IA losers. Il y avait eu déjà un réveil il y a 2 jours à la suite du CEO d'NVIDIA qui avait dit que c'était une période merveilleuse pour être un éditeur de logiciels et que l'IA n'allait faire que renforcer l'utilisation des logiciels. Mais pour l'instant, le marché n'a pas pris cette hypothèse-là. Mais dès qu'effectivement il y a une petite pause semi-conducteur, IA, etc., eh bien, on retrouve ces valeurs-là et le marché net, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il pourrait y avoir cet arbitrage et puis que net, ce soit à peu près neutre, mais net, ça fait du positif.
Oui, et en fait, ce que vous dites, c'est que des variations à la hausse qui peuvent sembler aujourd'hui excessives, on a vu Dell gagner plus de 40% en 2 jours, Hewlett Packard, les serveurs Hewlett Packard d'un coup gagner 20%, hier, Valeo plus 18, ces hausses qui peuvent paraître excessives, en fait, non, elles ne sont pas forcément excessives, elles corrigent des excès à la baisse.
Absolument, on a eu un écart, notamment sur la partie logiciel semi-conducteur, qui sont, depuis 30 ans, des secteurs qui sont extrêmement corrélés, depuis toujours, parce que globalement, plus il y a de logiciels et plus on a besoin de semi-conducteurs, et puis quand il y a des retournements de tendance, etc., on a moins besoin de logiciels, on a moins besoin de semi-conducteurs. Ces secteurs sont très très corrélés. Depuis juillet 2025, très précisément, il y a eu un écartement de performance entre ces deux secteurs qui est absolument vertigineux et jamais vu dans l'histoire, à telle enseigne que, effectivement, dans un certain nombre de cas, on est tombé sur des niveaux de valorisation qui sont très très bas, qui ne peuvent se justifier que si on fait l'hypothèse, qui est à vérifier, qui n'est pas forcément fausse, mais qui sera à vérifier sur plusieurs années, que effectivement l'IA conduira à la moindre utilisation des logiciels ou les remplacera dans un certain nombre de cas.
Il y avait beaucoup de positions short sur des secteurs entiers, les logiciels, certains acteurs automobiles, et ces positions d'un coup, juste à cause de l'IA, parce qu'on se dit non, attention, il y aura quand même un usage de l'IA pour ces secteurs, d'un coup, ces positions short parfois massives se débouclent, exactement, et ça donne des hausses incroyables qu'on observe.
Et puis, je termine là-dessus, vous avez aussi beaucoup d'autres secteurs qui ont été délaissés, non pas par raisonnement, parce qu'ils étaient des victimes de l'IA, mais simplement par les flux, parce qu'il a fallu vendre ces titres pour pouvoir acheter toutes les valorisations stratosphériques que l'on a vues. Et effectivement, ça a pesé sur la valorisation de beaucoup de valeurs défensives, de la consommation cyclique, de la consommation non cyclique, de la pharma, etc.
Alors là, Régis, vous êtes en train de justifier les hausses qu'on a observées explosives des derniers jours. Vous êtes en train de les justifier. Est-ce que Régis vous a convaincu, Laurent?
Je ne sais pas si c'était le projet.
Ça va vous permettre une belle entrée en matière.
Je poserai la question autrement. Toute la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui dans une bulle de l'IA, une bulle de tout ce qui touche de l'IA. Effectivement, on a du mal à comprendre qu'une société puisse gagner comme Dell 40% en deux jours. C'est-à-dire que les analystes ont été aveugles par rapport à un certain nombre d'éléments sur certaines boîtes. Je pense à le nom m'échappe qui a été multiplié par 14.
Intel,
c'est peut-être... Non,
le Bitcoin.
Scandisk.
Ah oui, Sandisk, oui. Sandisk.
Donc, des progressions stratosphériques. Il y a certainement des éléments très factuels, c'est-à-dire qu'ils sont sur des marchés qui sont en train d'exploser. Mais moi, ça m'étonne toujours qu'effectivement, les analystes n'aient rien vu avant. C'est-à-dire que pour qu'une boîte gagne 14 fois, soit multipliée par 14 en à peu près un mois, c'est qu'il y a eu vraiment une disruption.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que pendant la crise des dettes, il y a eu la grande remise en question des agences de notation. Vous dites, là, il y a des questions qu'on devrait se poser sur la capacité des analystes à anticiper ces business-là.
Ils sont dans les choux. Oui, je m'en pose. C'est quand même extrêmement étonnant de voir des valorisation multipliée par autant en si peu de temps. Même Nvidia, d'ailleurs.
Si je peux me permettre, c'est pas les analystes qui font les cours de bourse. Hein. Les cours de bourse sont faits par la somme des acheteurs et des vendeurs.
Absolument.
Oui, mais les attentes du marché.
Les objectifs de cours.
Les intervenants du marché, c'est pas forcément les analystes.
Oui, mais le consensus se plante, quoi. Ouais. Les anticipations de business sont complètement dans les choux, quoi. Et donc, que font les analystes? C'est là qu'on peut se poser la question. De même qu'on se demandait que font les agences de notation il y a une quinzaine d'années.
Un petit peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est dans une bulle de l'IA, de tout ce qui touche à l'IA, je ne sais pas. On n'en a aucune idée. Ça, on le saura dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, je ne sais pas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que même si on sait que c'est une bulle, même si on vous dit aujourd'hui, oui, il y a une bulle de l'IA, vous ne pouvez pas jouer contre la bulle. C'est trop difficile parce que le marché pourra rester irrationnel plus longtemps que vous ne serez solvable. Donc, il y a aussi ce réflexe, je pense, dans le marché en général, et c'est ce que vous aviez dit, c'est que dès qu'il y a un secteur qui baisse un petit peu, les acteurs de marché en général ne veulent pas sortir du marché action parce qu'ils se disent « demain, il y aura peut-être d'autres gagnants de l'IA, je ne veux pas rater ça ». Donc je vais prendre un petit peu de profit sur Nvidia. Nvidia est devenue pas chère d'ailleurs. Oui. Nvidia sous-performe plutôt le reste du marché de la tech pour se repositionner, mais ne veulent pas sortir du marché pour ne pas rater un éventuel rallye sur un certain nombre de titres. Je pense qu'il y a aussi des flux qui sortent d'une classe d'actifs qui est très souvent oubliée, mais qui est très grosse, vers les actions, ces obligations souveraines.
Ah. Ça vient nourrir le flux action, là. Ce qui se passe sur le marché.
Je pense que ça nourrit un petit peu le flux action. On voit que les taux longs en Europe, les taux longs aux États-Unis, les taux longs au Japon sont quand même relativement élevés par rapport à ce qu'on avait connu les 10 dernières années. Il y a certainement quelques dégagements de ces obligations souveraines, et ça représente quand même des sommes très importantes, pour aller vers des actifs comme les actions et comme la tech.
On en viendrait presque à souhaiter encore plus de tensions obligataires. Dans ce cas, c'est parfait. Ça nourrit la hausse des actions.
Ça marche jusqu'à un certain sens. Jusqu'à un certain point. Je crois que Yardeni hier l'avait dit. Il y a quelques analyses de Yardeni qui avait déjà fait quelques analyses là-dessus. Le point de bascule où le marché action commence à s'inquiéter des taux, c'est quand le 10 ans américain est 4 3/4 et au-dessus. Donc là, on est à 4,50. Donc pour l'instant, ça ne l'inquiète pas. Mais effectivement, ça peut être un élément où il y a une réallocation vers ça, parce que on sent bien que demain l'IA sera partout. On ne sait pas est-ce que ce sera profitable, on ne sait pas si c'est très déflationniste, s'il y aura des retours investissement très importants.
Mais c'est là que ça se passe.
C'est là que ça se passe. On n'a pas envie de sortir de ça.
Au point qu'Alphabet, qui avait annoncé une levée de fonds en début de semaine de 80 milliards de dollars en actions, finalement annonce, la demande est tellement forte qu'on fait 85 milliards, allons-y. La demande est très forte sur Alphabet, alors qu'il va y avoir des appels à capitaux gigantesques du fait des IPO à venir, les introductions en bourse, SpaceX, Anthropic. Compte tenu de ce que nous dit à l'instant Laurent, on se dit que la poudre au sec, l'argent, le cash ou les réallocations prêtes à se réinvestir encore en actions sont infinies. Le monétaire aussi, sans doute, peut profiter du mouvement. Si à un moment, les banques centrales finissent par baisser les taux, ça va attirer encore de l'argent à terme, peut-être à partir de 2027, pas avant, sur le marché actions. Enfin,
ouais, bah, il y a quand même un effet richesse, hein, qui est que la hausse des cours de bourse enrichit les portefeuilles et leur donne de la capacité à si vous avez un titre qui prend 1000% dans l'année, bah, au bout d'un an, vous pouvez vendre 1% de votre position pour acheter un autre titre qui lui-même donc va créer de la capitalisation, non seulement sur le titre qui lui-même a monté, mais sur les titres à côté. Alors encore une fois, ça marche pas non plus systématiquement, puisqu'on l'a dit, il y a à peu près la moitié, une grosse moitié du marché qui jusqu'à présent a pâti de cet effet, l'apathie non seulement en performance relative, c'est-à-dire que ça sous-performe la hausse du marché, mais même en performance absolue. Oui. Vous avez beaucoup de secteurs et de valeurs qui sont en baisse absolue depuis 2 ans, alors même que qui n'ont pas fait de profit warning, qui n'ont pas eu de révision en baisse de leurs bénéfices, et leurs bénéfices ont continué de croître. Donc les multiples de valorisation, donc par exemple dans l'agroalimentaire, les multiples de valorisation se sont absolument effondrés. Donc vous avez eu des bénéfices qui ont continué de croître et des cours qui ont continué de baisser. Donc ça ne marche pas non plus systématiquement, mais ça marche assez bien au sein d'une même thématique. C'est-à-dire qu'au sein d'une même thématique, vous avez un effet d'entraînement qui est que tout le monde se compare à tout le monde, et que plus les valorisations montent, et effectivement c'est ainsi qu'on rentre dans la bulle, et on peut commencer à se dire qu'on est dans la bulle à partir du moment où on va chercher des valeurs qui sont pas très directement liées au sujet, mais qu'on assimile quand même. Et vous citiez Valeo, c'est un petit peu le cas. Valeo a parlé data center, et immédiatement vous avez une hausse de la valorisation qui est relativement démentielle, bon, à la hauteur de
la chute d'avant.
Non, mais dans des proportions qui restent quand même pas complètement déraisonnable, mais voilà, on commence à avoir un peu fait le tour de ce qu'on connaît, de ce qui existe, des semi-conducteurs, etc. On va chercher des valeurs qui n'ont pas trop de rapport avec le sujet, mais qu'on assimile parce que on se dit voilà, c'est la nouvelle idée du moment.
Oui, alors on va parler aussi d'obligations, bien sûr, de banque centrale dans un instant. C'est Laurent, que c'est des thèmes que vous appréciez particulièrement. Mais juste avant de clore ce chapitre consacré à l'IA, à la tech, est-ce qu'on se dit, avec tout ce qui se passe sur la tech et notamment américaine, que la Chine est en train d'être larguée, là, qu'elle est doublée, enfin, plus que doublée. On se disait, Chine, États-Unis, c'est à peu près égalité, surtout au moment de DeepSeek. On se demandait même si la Chine n'était pas en train de passer devant. Et puis là, on voit les montagnes d'investissement annoncées, et puis la hausse faramineuse des valeurs américaines. À côté, DeepSeek nous annonce une levée de fonds de... Attendez, je cherche le chiffre, il est tout petit. 7 milliards de dollars. 7 milliards, c'est rien comparé à ce qu'annoncent les groupes américains. Est-ce que les Chinois manquent d'argent, là, Antoine?
Mais c'est encore une fois le truc, c'est qui c'est qui a la plus grosse valorisation, qui c'est qui va lever le plus de fonds? DeepSeek, ils ont émergé en t'expliquant qu'ils sont capables de faire la même chose pour 100 fois moins cher. Logique qu'ils lèvent que 7 milliards. Et s'ils arrivent à faire exactement la même chose...
Ouais, est-ce qu'ils peuvent arriver à faire exactement la même chose, à faire des IA aussi poussées? Il faut de l'inférence aujourd'hui, ce qui demande beaucoup de data, beaucoup d'énergie et de l'argent.
DeepSeek a montré en soi-même qu'ils étaient capables de faire exactement la même chose à un moment donné.
Il y a 2 ans, voilà.
Mais qu'ils arrivaient à disrupter justement en demandant beaucoup moins de puissance et beaucoup moins de calcul. Est-ce qu'ils préparent la deuxième phase?
DeepSeek annonce une levée de fonds de 7 milliards de dollars. On a presque de la peine pour eux, là,
non.
Laurent.
Non, moi, j'ai pas du tout pour la... C'est un continent que... Et des gens que je, personnellement, connais un petit peu. La communication des Chinois, alors j'allais dire des Chinois en général, est inversement proportionnelle à leur efficacité. Ce qui est peut-être parfois le contraire de Donald Trump. Je rappelle qu'aujourd'hui, le premier constructeur mondial de véhicules électriques, c'est BYD.
Oui.
Qui parlait de BYD à 5 ans? Est-ce que BYD, il y a 5 ans, a fait de la communication sur les 100 000 ingénieurs qu'ils ont pour construire des voitures électriques efficaces? On avait vu sur X en particulier, Elon Musk il y a 5 ans qui se moquait de BYD, qui disait jamais BYD ne concurrencera Tesla. On en est là aujourd'hui. Donc les Chinois, je pense qu'il faut pas juger de leur efficacité, de leur capacité à leur communication.
D'accord.
Je pense qu'ils travaillent beaucoup plus qu'ils ne parlent.
Oui.
Et parfois c'est plutôt bon signe.
Régis?
Oui, il est certain, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il est certain qu'un excès de flux monétaires, d'argent, de valorisation, de confort, nuit à la productivité. On l'avait d'accord. vu autrefois dans d'autres secteurs. Je pense au secteur du pétrole. Quand le pétrole est resté très longtemps, de 2003 à 2015, au-dessus de $100 ou autour de $100, pendant une décennie, eh bien, les coûts d'extraction du pétrole ont monté avec le pétrole. C'est-à-dire tous les services sont devenus plus chers, et puis on s'est mis à dépenser plus, et puis on s'est mis à voyager en business, et puis etc. Et puis quand le cours du pétrole est passé de $100 à $20, on s'est aperçu qu'on pouvait extraire du pétrole non plus à $70, mais à $25. Oui. Et je pense qu'il y a un peu de ça aujourd'hui dans la tech, c'est-à-dire qu'il y a quand même tellement d'argent que très probablement il y a une sous-productivité qui est en train de se mettre en place, et des dépenses somptueuses qui sont probablement inutiles, ouais, on le voit dans l'énergie.
Est-ce que le marché qui se demandait jusqu'à il y a peu si la Chine allait concurrencer, voire gagner le match face aux États-Unis dans l'IA, est-ce que le marché est en train de répondre non, c'est les États-Unis qui gagnent? Est-ce qu'il y a de ça aussi dans les valorisations? On regarde par exemple les points faibles des uns et des autres. La Chine a beaucoup d'électricité, mais assez peu de puces avancées. Les États-Unis, c'est l'inverse. Peu d'électricité, mais beaucoup de puces avancées. Et qu'est-ce qui est le plus important là pour l'avenir de l'IA? Avoir beaucoup d'électricité ou avoir les meilleures puces? Qui nécessitent ces meilleures puces, un peu plus d'argent.
Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que la Chine a ou n'a pas?
À ce point?
Oui. Oui. Oui.
Quand on les connaît, on sait qu'on les connaît pas.
Regardez depuis le début de la crise du 27 février, la Chine importe 5 à 6 millions de barils de moins chaque jour qu'avant le début de la crise. Et quand on regarde les stocks, alors c'est toujours pareil, on connaît pas exactement le niveau des stocks, ça ne s'explique pas par du déstockage. Ça veut dire qu'ils ont switché sur, pour leur production énergétique, alors du charbon, malheureusement, mais aussi de l'hydraulique, aussi du solaire, aussi du voltaïque, ils avaient en réserve.
Oui.
Les Chinois ont une stratégie.
Oui, oui.
Ils ont une stratégie d'État. Donc là, moi, c'est une des grandes différences que je perçois, c'est qu'aux États-Unis, c'est des stratégies concurrentielles. Alors, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Hein. C'est une stratégie concurrentielle entre les gros, les hyperscalers. En Chine, c'est plutôt une stratégie poussée par l'État, organisée par l'État, pour devenir la première puissance mondiale. Et donc oui, non, on sait.
C'est pas parce qu'on les voit pas venir qu'ils ne viennent pas.
Absolument. Voilà. C'est exactement ce que je pense.
Sur le pétrole, par exemple, vous disiez, au début du conflit, on se disait, ils vont avoir de grandes difficultés parce qu'ils dépendent beaucoup du pétrole iranien. On voit non seulement ce que vous dites, mais qu'en plus, ils ont exporté du pétrole vers l'Australie.
Absolument.
Ils viennent nourrir en pétrole l'Australie, les Chinois.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pas un hasard si, entre janvier et fin février, le prix du pétrole est monté de 50 à $62. Vous regardez les importations chinoises en particulier sur cette période-là, elles ont plutôt augmenté, ils ont stocké. Les Chinois ont une vraie stratégie.
Oui, oui.
Ont une réflexion stratégique.
C'est pas
ça marche, ça marche pas, on sait pas, hein, mais ils ont une vraie réflexion stratégique.
C'est pas parce que vous les voyez pas venir qu'ils ne viennent pas. Il y a un livre passionnant qui a été publié récemment qui s'appelle L'ennemi qui nous désigne, du Grand Continent, une revue passionnante également. Et dans ce livre, ils expliquent justement, il y a tout un chapitre sur la Chine qui est en train de devenir ou qui va devenir première puissance économique mondiale. Et la question de l'auteur est la suivante. La Chine est en train de devenir la première puissance économique mondiale, elle va le devenir. Et pourtant, seriez-vous capable de citer les noms de trois Chinois vivants?
Tellement j'ai vu ça, oui.
Régis,
non,
Laurent, pourriez-vous?
Pourtant, j'ai déjà vu la question, j'aurais pu m'enseigner avant de venir.
Trois Chinois vivants. Et vous qui nous suivez, vous en connaissez, trois Chinois vivants?
Xi Jinping, encore pour longtemps.
Oui. Xi Jinping, Jack Ma.
Ça, c'est un seul, il y a deux mots, mais c'est un seul.
Jack Ma.
Mais oui, non, effectivement.
Il manque le troisième.
Wen Jiabao.
Il est vivant encore?
Un ancien Premier ministre.
Oui. On est sûr qu'il est vivant.
Absolument.
Oui. Bon, voilà.
Mais bon, oui. Régis. Mais sur les vainqueurs de l'IA, en fait, je suis pas sûr que de pouvoir définir ce qu'est-ce qu'un vainqueur de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil qui est nouveau. C'est encore une fois, ça se compare à l'avènement d'Internet, même si c'est probablement un événement plus majeur encore que l'Internet. Mais aujourd'hui, voilà, je sais pas ce que c'est être un vainqueur de l'Internet. Oui, il y a eu des nouveaux business models qui se sont créés. Il y a eu effectivement les sept magnifiques qui ont bénéficié. ancienne, mais je veux dire, c'est un outil. Et finalement, cet outil, c'est LLM. Effectivement, ils ont besoin de semi-conducteurs. Il y a pas de doute là-dessus. Et un petit peu d'électricité, de refroidissement et de data center, etc. Mais ils ont surtout besoin de data. Et en fait, le cœur du débat et du sujet dans l'avenir, c'est la data. Ce ne sont pas les LLM en tant que tels. C'est qui va détenir la data, qui va la distribuer, ouais. qui va l'utiliser au mieux. Oui. Ça va être ça le sujet.
On poursuit nos échanges. Il y a un autre Chinois vivant là dont on peut citer le nom. Lang Lang.
Ah oui, Lang Lang, bien sûr.
Ouais, le pianiste.
J'aurais dû.
Ouais. Ah oui, en plus vous chantez, hein, on rappelle.
Je chante, je joue.
Oui, Wen Jiabao est toujours vivant.
Hein, voilà. Ah, on est fort. On a quatre noms de Chinois.
Un milliard six.
C'est pas évident, hein, alors que les Américains, première puissance, alors depuis plus longtemps, mais le soft power, il est beaucoup plus ancré chez nous, évidemment.
Bien sûr.
Bon, passionnant. Je disais, Régis chante. Oui, il est chanteur savoyard, c'est ça.
Chanteur.
C'est vrai. Hein. Vous trouvez des vidéos. Vous avez Régis Béguet. Et qu'est-ce qu'on tape en plus pour vous retrouver, Régis?
Bah rien, mon nom.
Juste sur YouTube.
On trouve plein de choses.
Oui. Dans 11 minutes, ce sera la clôture, on va la vivre ensemble bien sûr. Le CAC gagne dans cette dernière ligne droite où on accélère, il gagne 0,8%. Les valeurs, les logiciels, on le disait, rebondissent alors que les semi-conducteurs au contraire marquent une pause dans le sillage de Broadcom. Le titre Broadcom perd 14% à Wall Street malgré une super publication, mais bon, il en faut toujours plus. Et du côté des logiciels, au contraire, c'est la hausse. Dassault Systèmes gagne 6% quasiment aujourd'hui, Capgemini plus 6%, SAP sur le marché allemand gagne 5,6%. Les valeurs souveraineté technologique aussi progressent. Vous savez que Bruxelles a annoncé hier des mesures pour encourager une montée en autonomie européenne sur les questions technologiques, pour moins dépendre de Google par exemple et des serveurs proprement américains. Essayer de faire monter les acteurs européens en la matière. Bien, OVH aujourd'hui, OVH Group gagne 2% supplémentaire. À la baisse, on a Danone, Orange, des valeurs défensives, Veolia aussi, qui perdent 1 à 1,5%. On en parle avec Laurent Martin, Antoine bien sûr et Régis Béguet. Laurent, dans une semaine, nous saurons si dans le contexte qu'on est en train de décrire, avec une croissance qui flagelle un peu ici en Europe, hein, du fait de la guerre en Iran, nous saurons si la BCE va nous faire du bien et relever nous faire du mal et relever ses taux. Est-ce qu'elle relèvera ses taux dans une semaine?
Elle relèvera ses taux, 0,25, on en avait parlé.
On a déjà eu ce débat avec Laurent. Ouais. Ah, oui. le coup près n'est toujours pas tombé. Hein,
non, mais là, ça y est, c'est done deal, elle relèvera ses taux et ça ne nous fera pas de mal.
Et ça ne nous fera pas de mal?
Non.
Attendez, on a une croissance flagelle. Quand je dis croissance, attendez, le PIB français au premier trimestre a reculé de 0,1%. Elle va relever ses taux et vous pensez que ça ne nous fera pas de mal?
Non, le taux 10 ans français est passé de 3 à 3,70 déjà. Donc le fait que la BCE remonte son taux directeur de 2 à 2,25 est, alors c'est pas anecdotique, mais de sur la macroéconomie, ça a très peu d'intérêt. Ça, j'aurais un autre discours. Si la BCE, en plus de relever de 0,25, commence à s'embarquer dans un cycle de hausse des taux tel qu'on a eu en 2022-2023 de 100, 150, 200 points de base, mais ça j'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui le débat dans le marché c'est plutôt deux hausses ou trois hausses de taux. Je suis plutôt dans le camp de deux hausses depuis un petit moment d'ailleurs. Et ça s'explique.
Il va falloir bien l'expliquer. Parce que
Il va falloir bien l'expliquer.
Les intervenants de marché qui viennent ici, ils ont du mal à le comprendre, là, que la BCE relève ses taux.
Mais ça se comprend très bien parce que c'est son mandat.
Son mandat, c'est de faire baisser les cours du pétrole.
Non, son mandat, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser l'inflation. Donc le pire que la BCE puisse faire, de son point de vue, c'est de ne pas bouger, que la crise dans le Golfe continue, que l'inflation commence à augmenter et qu'on ait un peu une spirale, pas comme on a eu en 2022-2023, parce que les choses sont un petit peu différentes.
Il y avait la boucle
mais qu'elles doivent plus tard les relever encore plus. Ça qu'elle veut pas. Elle veut pas ça. Donc je pense oui.
Je comprends la peur et la crainte, mais on n'en est pas là. On n'est pas au bord d'une boucle prix-salaire parce que le pétrole monte, en l'occurrence. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle relèverait ce taux.
Attention. Il y a une chose, je crois, qu'on oublie un petit peu en Europe. Alors je sais pas comment ça se passe exactement dans les autres pays européens, mais en France, on ne parle pas que de boucle prix-salaire, on parle de boucle prix-revenu. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez. On a 16 millions, 17 millions de retraités. C'est à peu près un tiers des revenus des ménages, par exemple. Et ces revenus-là sont indexés automatiquement. Vous avez X% de SMICAR, 2,4% au 1er juin. Donc, effectivement, sans avoir des hausses généralisées de salaire, vous avez quand même, de façon automatique, des revenus qui augmentent. Et je pense que dans les autres pays européens, c'est peu ou prou la même chose.
En masse, mais c'est, alors les retraités, vous pouvez pas les détruire, mais les emplois au SMIC, vous pouvez les détruire, par contre. Donc,
oui.
En masse, vous pouvez avoir une masse de salaire qui n'augmente pas.
Oui, mais regardez 2023, il n'y a pas eu de destruction d'emplois. Le SMIC a été relevé comme l'inflation, les retraites ont été relevées comme l'inflation, il n'y a pas eu de destruction d'emplois.
Alors, je comprends, et donc que la BCE respecte la lettre de son mandat, je comprends, il y a des prix qui augmentent, elle va relever les taux, après, à la limite, pourquoi pas, même si les prix, la hausse des prix ne généralise pas complètement, mais pourquoi pas. Mais quels seraient les bienfaits d'une hausse de taux ou deux ou trois pour les économies européennes?
Ah, c'est pour les marchés, c'est pas pour les économies. C'est pour empêcher, je crois, qu'à un moment donné, les marchés se disent « Ok, la BCE abandonne son mandat et que les taux longs montent,
oui, d'accord.
Tout simplement. »
Question de crédibilité.
Question de crédibilité. Et une hausse des taux, imaginez une hausse des taux longs en France, parce qu'on commence à craindre que la BCE va laisser filer l'inflation. Une hausse des taux, on est à 3,70 aujourd'hui, 3,70, qu'on monte à 4,50 avec notre déficit public, avec nos finances publiques, là c'est dramatique. Et là, ça aurait un vrai impact sur la croissance, sur la confiance et sur les marchés, et probablement sur les marchés pour le coup.
Oui.
Donc après la communication va être très importante. J'aimerais entendre Madame Lagarde dire nous avons remonté les taux. C'est un peu une assurance contre justement un éventuel emballement de l'inflation, et que si à la fin de l'année les choses se normalisent, on sera tout à fait capable de les rebaisser aussi vite.
Oui. D'accord.
C'est un peu ça que j'attends.
Qu'elle n'emmène pas le marché sur l'idée qu'on est sur un cycle de hausse de taux.
Absolument.
Surtout pas.
Absolument.
Ouais.
Mais le 0,25, non.
Ça... Bah, vous m'avez plutôt convaincu, là, pour le coup. Alors, je suis un esprit faible, hein, mais vous êtes un esprit fort, Régis. Est-ce qui vous a convaincu autant que moi ou...
Pas vraiment. Parce que, bon, encore une fois, je comprends la logique, mais le but d'une hausse des taux, pour casser l'inflation, c'est de casser la croissance économique. Quand on a voulu casser l'inflation dans les années 80, on a monté les taux à 18%, d'accord, pas de 0,25. Donc si le but c'est de casser l'inflation, faut briser l'économie. Et l'économie est déjà quand même en souffrance, elle n'est pas morte, mais elle est en souffrance du fait de la guerre en Iran et de la hausse des coûts des matières énergétiques, même si effectivement, parallèlement, les cours de bourse sont assez hauts, il y a quand même un petit effet richesse, etc. Enfin bon, qui joue quand même beaucoup moins en Europe. Donc moi j'ai quand même du mal à penser que ce qui restera comme ancré comme l'erreur historique des banques centrales, qui est la hausse des taux de juillet 2008 par la BCE, qui est quand même ce qui s'apprend dans toutes les écoles comme étant l'erreur majeure, eh bien on s'apprête à la refaire plus ou moins dans les mêmes circonstances. C'est quand même quelque chose que je n'arrive pas à me mettre dans le crâne, mais manifestement, j'ai tort, donc je rends les armes. Non, mais si ça va se faire, ça va se faire.
Dans une semaine, on saura. Un peu de patience, messieurs, dans une semaine. Et on sera en spécial, bien sûr, sur BFM Business tout au long de l'après-midi. Vous pourrez suivre cette décision de politique monétaire. Aude Kersulek sera avec nous depuis Francfort. Justement, sera notre petite souris BFM Business au cœur de cette conférence de presse de Christine Lagarde, où elle essaiera de poser ses questions aussi de notre part, de la part que BFM Business à la présidente de la BCE, Laurent, allez-y.
Me permettre, au-delà de la conférence de presse, il faudra bien écouter, après la conférence de presse, les sources BCE.
Oui.
Vous savez, les fameuses sources BCE qui s'expriment en disant on aurait plutôt voulu que, et le prochain meeting, on va plutôt faire ça. Et les sources BCE, alors c'est les Allemands, les machins, enfin c'est les Nordiques, s'expriment d'autant mieux quand ils veulent monter les taux.
D'accord. Ah oui, d'accord. Vous avez vos radars ouverts. Il faudra que vous veniez un jour de BCE, du coup. On essaiera de caler ça, en l'occurrence. Juste en 30 secondes, Régis, c'est une séance et une journée importante pour Bayer.
Absolument.
Il faut en dire un mot.
Bayer, qui est l'autre grande erreur historique qui s'apprendra dans les écoles de commerce et de finance pendant de longues
décennies. Et on reste en Allemagne.
L'acquisition de Monsanto en 2015, qui a coûté 60 milliards d'euros de capitalisation à Bayer, c'est-à-dire plus de 60% de sa capitalisation de 2015. En plus de 10 ans, donc on a perdu 60% de capitalisation à cause des procès liés au Roundup et au glyphosate aux États-Unis, dont une grande partie ont déjà été réglées, mais Bayer a proposé une class action, donc un règlement général sur l'ensemble des plaintes. Il en reste entre 60 et 70 000 aujourd'hui qui fermeraient ce dossier. Ce serait donc une étape majeure pour Bayer. Elle sera éventuellement validée par le juge de la Cour suprême en début juillet, mais aujourd'hui, on saura le taux de plaintifs, de plaignants, pardon, excusez-moi pour l'anglicisme, le taux de plaignants qui va accepter de rentrer dans le deal. Et c'est très important, ce taux doit être proche de 100% pour que le deal se passe.